Bienvenue dans l'émission Amphi 23 depuis le 23 Quai de Conti. Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, s'adresse plus particulièrement au monde enseignant et étudiant et aux futurs bacheliers. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, Amphi 23, dans sa série d'émissions Les philosophes et l'Europe, autour de la question centrale « Une Europe politique est-elle possible ?», s'interroge sur la pensée allemande. Un détail qui a son importance pour comprendre l'émission du jour, rappelons qu'au XVIIIe siècle, l'Allemagne politique n'existe pas. Avec nous aujourd'hui, Constance Hubert, journaliste à Canal Académie, interroge Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, philosophe, spécialiste de la philosophie allemande. Bernard Bourgeois, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
La pensée germanique de l'Europe est liée à un contexte particulier, fait de spéculations, de théories politiques et historiques. Et nous allons voir que les conclusions théoriques des penseurs de langue allemande sont souvent européocentristes et germanistes. Je laisse la parole à notre invité, en compagnie de Constance Hubert.
Merci Marianne Durand-Lacaze. Nous venons de voir dans l'émission précédente qu'il y a une exception de la pensée française de l'Europe. Alors y a-t-il, Bernard Bourgeois, une exception de la pensée philosophique allemande ?
Écoutez, la pensée allemande a été une pensée, surtout à partir du XVIIIe siècle, a été une pensée fondamentalement européenne. Mais je voudrais souligner que lorsque cette pensée s'est réalisée dans une philosophie, au sens technique du terme, à travers une philosophie essentiellement rationaliste, faisant de la raison non pas un simple reflet de la réalité, mais un pouvoir de jugement, d'appréciation, de modification de la réalité, alors cette pensée philosophique au sens technique du terme, dans une perspective d'un rationalisme aussi fondamentalement pratique, cette pensée allemande, en devenant philosophique, a abouti à cette affirmation que l'Europe dont le destin semblait lié à celui de l'Allemagne, la constitution d'une Europe politique qui semblait liée à la constitution d'une Allemagne existant politiquement, eh bien, on est arrivé chez les philosophes dont nous allons parler, on est arrivé à ce constat qu'une Europe politique, qu'une Europe unifiée politiquement n'était ni possible ni souhaitable.
Et justement, quels sont les auteurs représentatifs de cette pensée politique allemande ?
Eh bien, ce sont des écrivains comme Klopstock, auteur de la Messiade, ce sont des publicistes, ce sont des journalistes, ce sont des essayistes, August Schlegel, Frédéric Schlegel, Novalis également, plus tard à la fin du siècle, Burckhardt, bref, des penseurs, mais des penseurs qui n'ont pas élevé la pensée à la rigueur de la technicité philosophique.
Alors, en quoi la spécificité de la pensée allemande exprime-t-elle le contexte administratif et politique de l'Allemagne ?
Eh bien, cette situation a été évoquée à l'instant, tout à l'heure. L'Allemagne était une collectivité, si je puis dire, possédant certes une certaine unité à travers Saint-Empire romain germanique, puis c'était devenu une confédération, mais une unité qui était assez lâche, c'est-à-dire qu'elle coexistait avec une diversité à laquelle les cités allemandes, les duchés, les principautés, les royaumes, certaines grandes villes ecclésiastiques étaient extrêmement attachées. Et l'Allemagne, on ne concevait pas qu'une Allemagne politique fût possible qui n'aurait pas fait droit aussi bien à l'exigence de l'unité qu'à celle de la diversité, c'est-à-dire refusant et un État, si vous voulez, unitaire et autoritaire, centralisateur, et d'autre part une dispersion anarchique d'États et de collectivités ou de cités diverses. Et on pensait que c'était ce que l'Europe devait être, et les Allemands qui se trouvaient pris entre l'impérialisme français, l'impérialisme russe, qui avait servi de champ de bataille entre les grandes Europes pendant la guerre de 30 ans, les Allemands considéraient qu'ils ne pourraient exister politiquement et être ainsi préservés des ravages des deux impérialismes que j'ai évoqués que si une Europe se constituait englobant les grandes Europes, la France en particulier, la Russie et d'autres, les limitant dans leurs entreprises, et cette Europe aurait été comme l'Allemagne, un État fédéral, à savoir comportant et une unité et une diversité. Par conséquent, la constitution d'une Allemagne politique semblait absolument liée avec la constitution d'une Europe qui eût été elle-même une Europe fédérale.
On voit bien, donc on est loin de la pensée ici de Rousseau, de ce qu'on aurait pu appeler entre guillemets le confédéralisme de Rousseau. Mais justement, quel est le rôle de l'Europe dans le jeu géopolitique mondial ?
Alors, les penseurs allemands dont j'ai cité quelques-uns, ces penseurs allemands considèrent que l'Europe, et surtout une Europe qui serait constituée politiquement en une fédération, que cette Europe serait véritablement l'Atlas qui porterait le monde. Il y a un européocentrisme chez les penseurs allemands qui font de l'Europe le maître du monde. Le maître, à savoir aussi bien celui qui domine que celui qui enseigne, qui éduque. C'est le maître du monde. Pour d'autres, comme Klopstock, l'Europe est la reine de la Terre. On pourrait évoquer les exemples. La construction de l'Europe est donc une construction qui va permettre, en quelque sorte, au monde de vivre d'une manière plus équilibrée. Cette Europe, en s'affirmant comme fédération, c'est-à-dire comme une structure faisant droit et à l'exigence d'unité et à celle de la diversité, cette Europe, en quelque sorte, devrait permettre, en limitant leurs dangers respectifs, devraient permettre une certaine réconciliation entre l'Asie, le domaine de l'unité impériale, qui opprime les particularités, et l'Amérique, où règne le libéralisme, qui peut verser dans l'anarchisme, et cela exigeait pour les penseurs allemands, le problème devait être examiné de savoir à quelles conditions pouvait faire partie de cette Europe fédérale la Russie, qui était en quelque sorte la tête de pont avancée en Europe de l'impérialisme asiatique, et d'autre part la Grande-Bretagne, tête de pont du libéralisme ou de l'anarchisme américain. Par conséquent, une Europe fédérale permettant de se distinguer et de l'Asie et de l'Amérique, mais placée devant un problème très redoutable, que faire de la Grande-Bretagne et que faire de la Russie? Là aussi, ce sont des questions qui sont toujours d'actualité.
Et quel est le rôle de cette Allemagne dans cette Europe, dans l'Europe telle que vous nous la définissez?
Eh bien, écoutez, de même que pour ces penseurs allemands, les Novalis, les Schlegel, Herder et d'autres, de même que pour ces penseurs, l'Europe doit être le foyer ou l'agent permettant au monde de vivre en paix en évitant les dangers et de l'anarchisme et de l'autoritarisme ou de l'impérialisme, eh bien, le rôle que doit jouer l'Europe dans le monde, c'est à l'Allemagne de le jouer au centre de l'Europe. Si vous voulez, il y a, c'est pas du pan-germanisme du tout, mais l'idée que l'Allemagne est le pays qui peut, parce que son destin est lié à celui de l'Europe, c'est le pays qui est le porteur de l'entreprise européenne. Je voudrais évoquer quelques affirmations. Frédéric Schlegel, l'esprit de l'Europe s'est éteint. C'est en Allemagne que coule la source des temps nouveaux. Son frère, Auguste, l'Allemagne est la mère patrie de l'Europe. Jean-Paul Richter, l'Allemagne est le cœur de l'Europe. Madame de Staël a la même expression. Arndt, l'Allemagne est le nombril de la terre d'Europe. Novalis, l'Allemagne précède dans sa marche lente, mais sur les autres pays européens. Telle est la vocation de l'Allemagne dans l'Europe. L'Allemagne est le ciment fédérateur d'une Europe fédérale, de même que l'Europe est l'agent essentiel de la conciliation et de la pacification du monde. Donc, un rôle très important assigné par les penseurs allemands à l'Allemagne elle-même.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire que le fédéralisme nuit à la diversité ou au contraire qu'il exprime une essence allemande au-delà de la diversité? C'est-à-dire, en d'autres termes, y a-t-il un principe allemand, un esprit germain, ce que les Allemands appellent « Die Geist » ?
Eh bien, écoutez, les Allemands sont conscients de leur rôle en tant que germanité dans une Europe au sein de laquelle le respect de la différence qui leur est propre à eux, allemands, puisqu'ils ne veulent pas d'une unité impérialiste à la française ou à la russe. Ces penseurs allemands, ils sont cohérents avec eux-mêmes, considèrent que les Allemands doivent jouer un rôle essentiel dans la réunion d'une diversité qui autrement se durcirait en tension, mais la réunion, la pacification de leurs liens à eux, germains, avec ceux qui, en Europe, avec les peuples qui, en Europe, ont été romanisés. Un grand historien allemand du 19e siècle, Leopold von Ranke, considère que l'Europe, c'est essentiellement l'unité vivante, c'est-à-dire qui maintient la tension, mais qui la maîtrise entre la germanité et la romanité. Cette unité, cette diversité vivifiante de la romanité et de la germanité, cette unité, elle doit être faite, elle ne peut être faite d'ailleurs que par la germanité, parce que les peuples romains, la France, etc., sont toujours tentés par l'unité héritée de Rome, par l'unité impériale, l'unité centralisatrice. Les Germains, eux, sont capables d'assurer cette unité des Germains et des Romains, si je puis dire, la germanité et de la romanité, en laissant subsister cette différence, eux qui sont précisément des fédérateurs et des fédéralistes par nature et par situation historique. Par conséquent, l'Allemagne doit respecter, doit faire vivre en Europe cette heureuse tension entre les Germains et les Romains, mais il n'en reste pas moins que cette conciliation des Germains et des Romains, c'est essentiellement des Germains. Par conséquent, là encore, l'Allemagne, les penseurs allemands, s'attribuent le rôle rôle essentiel. Et cette façon de se privilégier eux-mêmes qui pourra se développer plus tard dans des formes diverses de pan-germanisme.
Eh bien, merci Bernard Bourgeois et Constance Hubert pour cet entretien où nous avons pu comprendre et voir comment s'était déterminée la pensée de soi de la politique de l'Europe. Par rapport à l'émission précédente, effectivement, la pensée allemande apparaît moins pessimiste que la pensée française, plus sûre d'elle-même, faisant le choix du fédéralisme. Et nous avons vu combien la constitution d'une Allemagne politique était liée à la constitution d'une Europe politique, que l'Allemagne avait un rôle central à jouer pour les penseurs allemands, qu'elle avait une place au cœur de l'Europe, l'Allemagne est le cœur de l'Europe, et que ces penseurs allemands considéraient que les Allemands, eux aussi, devaient réunir et pacifier les peuples qui en Europe avaient été romanisés. Donc on est là sur le chemin de la recherche de l'unité dans cette diversité qui caractérise l'Europe. Et nous verrons dans une prochaine émission le dynamisme de la pensée allemande de l'Europe à travers l'apport d'Emmanuel Kant. Un grand merci à tous les deux et bonne réflexion à tous. Je rappelle les deux ouvrages de Bernard Bourgeois publiés aux éditions Vrin pour complément d'information, L'idéalisme allemand et La raison moderne et le droit politique chez le même éditeur. Merci.